Nous lisons ce soir le chapitre 4 de l'Épître de Jacques. D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous avez d'ardents désirs et vous ne pouvez obtenir. Vous contestez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui demeure en nous désire-t-il avec envie, mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur. Sentez vos misères et menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez pas l'un contre l'autre, frère. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, et nous y passerons une année, et nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur, paraissant pour un peu de temps, et puis disparaissant. Au lieu de dire « Si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos ventrilles. Toute jactance pareille est mauvaise. Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est péché.
Je serai en Christ, chers amis. C'est donc le chapitre 4e ce soir, que nous avons intitulé, comme peut-être je dois encore résumer les autres. Le sujet donc de cet épître de Jacques, c'est l'importance de la maturité spirituelle et les caractères d'un chrétien mûr. Les caractères d'un chrétien mûr dans le chapitre 1er, ça se manifeste dans le fait qu'il a de la patience dans les épreuves, dans les difficultés. Dans le chapitre 2e, il met la parole de Dieu en pratique. Dans le chapitre 3e, le chrétien mûr, il peut maîtriser sa langue. On a eu donc ce sujet hier soir. Et ce soir, nous avons comme sujet le chrétien mûr, il répand de la paix, non pas de trouble. Réfléchissons donc, chers amis, à ce chapitre. Et dans votre feuille, peut-être que vous avez encore votre canevas. J'ai suggéré que peut-être le verset clé, c'est le verset 12 que nous venons de lire. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? C'est tellement facile de regarder autour de soi et de critiquer et de juger. Mais nous n'avons pas le droit, dit la parole. Juger le fruit et la conduite des choses d'extérieur, mais nous n'avons pas le droit de juger les motifs de l'intérieur. Alors, sur le canevas encore, il y a cette phrase « Arrêtez de vous faire la guerre ». C'est le commencement de ce chapitre qui parle des guerres entre frères et sœurs. Première partie, versets 1 à 3, nous voyons la guerre à l'intérieur et à l'extérieur. Deuxième section, versets 4 à 5, la guerre avec Dieu. Troisième section, versets 6 à 10, l'infatuation avec soi-même. On est content de soi-même. Quatrième division, versets 11 et 12, la médisance. Et cinquième division, versets 13 à 17, une parole pour les hommes d'affaires. Mais pas seulement pour les hommes d'affaires, pour tout le monde. Voilà donc, arrêtez de vous faire la guerre. Dans ces versets 1 et 3, nous avons ce qu'on peut aussi dire, une condition très sérieuse qui existait parmi ses amis à Jérusalem. Et Jacques pose cette question au début du verset premier. D'où viennent les guerres? Et d'où viennent les batailles parmi vous? D'où, en effet? Ah, il y a quelque chose de sinistre derrière ces guerres. Il y a une source corrompue derrière ces guerres. C'est pas devenu un jour à l'autre qu'on a fait des hostilités, des sentiments d'hostilité entre croyants, entre frères et sœurs. C'était un développement. Parce que guerre, on peut aussi traduire hostilité. Une hostilité durable. Des disputes verbales. Et des batailles, des éclats occasionnels. D'où vient tout cela? Eh bien, il faut peut-être revenir au début de notre existence, quand nous sommes entrés dans le monde. Dans le fond, chers amis, il faut quand même admettre que nous sommes profondément égoïstes, chacun de nous. Pensons à ce petit bébé chou. Vous êtes endormi, juste dans un profond sommeil, et puis c'est minuit, et puis il pense à crier. Il veut manger. Et il ne cesse pas à crier jusqu'à ce qu'il reçoive. Et finalement, on s'est endormi, et c'est 3 heures. Et il commence encore une fois. Et il veut absolument que vous vous levez. C'est peut-être maman, peut-être c'est papa. Mais il veut absolument la satisfaction de ses besoins, maintenant. Et peut-être plus tard encore à 5 heures. Qui sait? Et voilà, on trouve des petits chéris ensemble avec leurs jouets. Vous regardez comment ils tirent tous les jouets vers eux-mêmes. Ils ne veulent pas partager avec les autres. Et toutes sortes d'autres choses qui nous montrent que ce petit bébé est terriblement égoïste. Le centre de sa vie, c'est moi. Mais ce qui est encore plus triste, c'est qu'il y en a des adultes qui agissent comme des enfants gâtés. Égoïstes. Égoïstement. Mais c'est vrai, nous avons remarqué que nous avons tous donc des besoins. Et ce petit enfant est créé avec des besoins. Et comment est-ce qu'il peut trouver la satisfaction? Eh bien, il crie. Ou il fait quelque chose. Eh bien, tout de suite, papa, maman, les frères, les sœurs viennent pour lui donner tout ce qu'il demande. Et plus tard, donc, il a compris que quand il crie, quand il n'est pas content, il tourne sa tête contre le mur, il ne veut pas pouvoir parler. Alors, toutes ces actions ont pour résultat qu'on lui donne quand même ce qu'il demande. Et voilà, se développe dans le cerveau de petit bébé. Il a des besoins et si tu fais bien, tu reçois. Maintenant, c'est un adolescent. Mais dans ce cerveau, dans ce banque des data, il a développé une manière de vivre. Il y a un développement, une manière de satisfaire, de trouver la satisfaction de ses besoins. Et on appelle ça, dans la parole de Dieu, la chair. La chair. Et on a nourri la chair. La chair est devenue fort. Le moi est fort. Et le moi cherche toujours à trouver la satisfaction de ses besoins. Mais maintenant, comme adolescent, et plus tard comme adulte. Et voilà, nous n'avons pas compris. Qu'est-ce que c'est que donc l'affranchissement? On parle de cela. Mais d'où viennent ces guerres, ces batailles? Ces guerres et ces batailles viennent exactement de la chair, du péché qui habite en nous. Comment ces guerres ont-elles commencé? Comment cette hostilité a commencé entre deux frères, deux sœurs, deux personnes? Il y a eu des pensées. Le frère a dit quelque chose, a fait quelque chose, et moi, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Vous remarquez, c'est le prénom personnel, je, pas moi. Je n'aime pas ça. Mais cette pensée, c'est une critique. Et nous savons très bien que si nous sommes nés de nouveau, des enfants de Dieu, que de ne pas aimer son frère, de ne pas aimer sa sœur, c'est un péché. C'est un péché. Alors maintenant, la parole nous exhorte à une chose très solennelle. En 2 Corinthiens 10, verset 4, nous lisons « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses détruisantes, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Remarquons cette phrase, mes chers amis. Cette phrase me dit que moi, comme croyant, comme enfant de Dieu, j'ai le devoir et la responsabilité d'amener toute pensée, on a toujours pensé, sont les autres pensées de quelqu'un dans le monde autour de nous. Non, les pensées que je trouve en moi-même, je dois les rendre captives à l'obéissance de Christ. Voilà, ça vient cette pensée. Il n'est pas sympathique, je n'aime pas, j'aime pas cette sœur, etc. Au lieu de juger tout de suite cette pensée, on l'a laissée. Et on n'a jamais réalisé qu'il faut confesser cette pensée. Et cette pensée a grandi. Et maintenant, il y a un manque d'amour qui se développe. Et de plus en plus, on ne se parle pas. Quand on est invité, on ne vient pas. Quand on parle d'un sujet, on reste sourde parce que j'aime pas ce frère. N'aime pas cette sœur. Et voilà, l'hostilité est créée. Ça vient d'où, ça, ces guerres? Romains 7, dans l'épître aux Romains, chapitre 7, il y a quelques versets de toute importance où l'apôtre Paul écrit les versets suivants, versets 21 et les suivantes. 21, je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien. C'est qui ça? Celui qui veut pratiquer le bien, c'est le moi régénéré. C'est le moi régénéré. Que le mal est avec moi. Le mal, c'est ici personnifié. Voilà, je me trouve ici, et c'est le mal qui est avec moi, à mon côté, si vous voulez, habite en moi. Le péché qui habite en moi, dit l'apôtre Paul. C'est le péché personnifié. C'est comme une influence, une puissance qui veut exercer, qui veut me dominer, qui veut influencer mes pensées, qui suggère même des pensées. Vous ne pensez pas que cette pensée, j'aime pas ce frère et j'aime pas cette sœur, ça vient de qui? Ça vient de ce mal qui habite en moi. Ça vient du péché qui habite en moi. Ce bastion de diable qu'il a placé, c'est l'agent. C'est l'agent de diable que le péché qui habite en moi, le mal qui habite en moi, qui suggère, c'est je n'aime pas. Et voilà. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est le nouvel homme, le régénéré. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat. Voilà, qui combat. C'est pour cela que j'ai intitulé « Il y a des guerres intérieures ». Il y a une guerre intérieure. Chez beaucoup d'amis, c'est une guerre civile parce qu'ils n'ont pas compris. Ils luttent contre qui? Une guerre civile. Il y a un combat dans l'intérieur contre la loi de mon entendement qui est renouvelée et me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. D'où vient ces guerres? D'où vient ces batailles entre frères et sœurs? Voilà. Voilà la racine. Voilà la source. C'est le péché qui habite en moi. Mais vous dites, mais comment est-ce qu'on peut avoir donc la victoire? Mais est-ce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous? Est-ce que il n'a pas la force pour ne pas pécher? Si nous avions, par exemple, jugé cette pensée d'antipathie vis-à-vis d'un frère, une sœur, il n'y aurait jamais été l'hostilité qui se développera. il n'aurait jamais été la guerre entre frères et sœurs. Si chacun de nous acceptait qu'il était en effet crucifié avec Christ et enseveli et ressuscité avec Christ et que Christ est notre vie, il n'y aura jamais été des guerres et des batailles entre frères et sœurs. Mais c'est parce que moi, dans le fond, je n'ai pas encore compris que même qu'en croyant, je ne peux pas être égoïste, je ne peux pas me conduire comme cette ancienne manière de vivre. Éphésiens 4, 22. Quand j'étais dans le vieil homme, cette atmosphère en Adam, cette vieille nature, j'avais une certaine manière, un certain style de vivre. Égoïstement, je cherchais la satisfaction de mes besoins, de mes intérêts, de mes désirs, de mes idées, en dépit de tout le monde, comme ce petit enfant qui, le centre de sa vie, c'est le moi. Et pour beaucoup d'enfants de Dieu, le centre de leur vie est encore toujours le moi au lieu de Christ. Je ne peux pas supporter qu'un frère ne pense pas exactement comme moi. Je ne peux pas supporter qu'une sœur n'accepte pas mes idées. Je ne peux pas supporter que voilà, moi j'ai une interprétation et l'autre ne l'accepte pas. Je ne peux pas supporter. Je me comporte encore comme ce petit enfant qui est là, égoïste. Oh, mes chers amis, vous savez que le remède de toutes ces guerres et ces batailles d'aujourd'hui, c'est au pied de la croix. C'est là où nous acceptons, en fait, et dans la pratique, que le moi a été crucifié avec Christ. Et je ne vis plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà. D'où viennent ces guerres et d'où viennent ces batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Parce que nous avons encore toujours ces luttes. Nous n'avons pas encore réalisé cet affranchissement de ce moi, de cet esclavage du péché. Dans vos membres, dans mon corps. C'est très sérieux. Donc, il y a cette condition sérieuse et cette source corrompue des convoitises. Ces désirs qui ne sont pas freinés, cet égoïsme de penser que moi je suis mieux que mon frère, meilleur que ma sœur. Ça peut aller jusqu'à tuer, vous voyez ça dans le verset 2? Vous tuez et vous avez d'ardents désirs, égoïstes. Le Seigneur dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Le début d'un meurtre, c'est l'établissement d'une attitude d'hostilité. Et si on ne juge pas cette attitude d'hostilité, ça peut arriver à quelque chose de terrible. En tout cas, des guerres et des batailles. Il faut donc revenir au Seigneur Jésus. Ah, nous lisons bien dans le psaume 133. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que les frères habitent ensemble. Ah non, il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils habitent unis ensemble. Oh oui, il y a beaucoup de salles de réunion en Suisse, en Angleterre et en France et en Allemagne, en Hollande, en Belgique, où les frères habitent ensemble, mais unis. Même pensée. Ils s'acceptent les uns les autres. Ils se respectent les uns les autres. Ils se mettent eux-mêmes le moi à côté afin que Christ soit manifesté parmi eux. Voilà la question qui se pose aujourd'hui, mes chers amis. Est-ce que Christ est le centre de notre rassemblement? Afin qu'il puisse être le centre de notre rassemblement, il doit premièrement être le centre de mon cœur, de ma vie. Mais nous trouvons cet esprit d'égoïsme à travers la parole de Dieu. Nous lisons par exemple en Genèse 13, verset 8, qu'Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ah, il a bien compris. Vous voyez, Abraham a bien compris. Il ne s'agit pas du tout que des frères ont des contestations. Parce que nous sommes frères, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des batailles et des guerres. Le Seigneur Jésus a dit quiconque se met en colère légèrement ou sans cause, sans qu'il y ait réellement une cause. Et la majorité des troubles d'aujourd'hui, Si c'était toujours doctrinal, on peut encore le comprendre, mais la plupart des cas, ce sont des personnalités fortes. Des frères et sœurs qui ont des personnalités fortes, des volontés fortes, qui veulent à tout cas pousser leur opinion, leur volonté, parce qu'ils n'ont jamais appris que le moi était crucifié. Quiconque dira à son frère « Raca » sera passible du jugement de Sanhédrin, et quiconque dit « Fou » sera passible à Gehenne du feu. Les disciples se disputaient aussi, et il s'éleva au milieu d'eux une question à savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Insister dans une assemblée sur ma position, j'ai quand même l'âge moi, il faut qu'on me respecte. Insister sur son opinion à lui, comment est-ce qu'il n'accepte pas mon opinion? Je impose mon opinion. Qui est le plus grand parmi nous? Celui qui est le plus bas. Celui qui sert ses frères et sœurs. Ah non. Non, c'est tout à fait au contraire de notre caractère, n'est-ce pas? De lire, par exemple, cette sagesse qui vient du ciel et qui commence avec douceur. Douceur, c'est la faiblesse. Traitable, paisible, humble. Mais non, mes chers amis, il faut se projeter aujourd'hui. Il faut insister sur ses droits, autrement on n'arrive pas au sommet. Il faut écraser ceux qui sont au-dessous de nous pour arriver, pour se projeter devant le monde. C'est moi. Voilà le monde. C'est de cela que parle Jacques, cette mondanité, cet esprit du monde infiltré aussi parmi les enfants de Dieu. Je m'aime, moi. Je m'aime. Si j'aime le Seigneur Jésus, je peux pas ni aimer moi-même, ni aimer le monde. Paul dit aux Corinthiens, quelqu'un de vous, lorsqu'il a une affaire avec un autre, ose-t-il entrer en procès devant les injustes et non devant les saints? Un frère entre en procès, oui, il insiste sur ses propres droits, il entre en procès avec un frère et cela devant les incrédules. Vous voyez ce que l'apôtre Paul nous dit? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt les injustes? Ah non, je ne peux pas le supporter. C'est insupportable, c'est injuste. C'est injuste. On ne m'a pas donné ma place. Pourquoi pas supporter? Est-ce que c'est la faiblesse? Oui, c'est la faiblesse. Paul dit aux Galates, mais si vous vous mordez, vous vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez pas consumés l'un par l'autre. Paul dit aux Éphésiens, marchez d'une manière digne de l'appel et gardez l'unité dans l'esprit. Paul dit à deux sœurs, Évodie et Syntyche, d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Donc ce problème n'est pas nouveau, d'insister sur ses propres droits. Ça existe déjà dès le début de l'humanité. Mais nous sommes une nouvelle création, chers amis. C'est Christ qui est notre vie. Est-ce que c'est vrai que Christ est véritablement notre vie? Est-ce que les autres voient la vie de Christ manifestée en moi? Le monde ne veut pas de Christ à cause de mauvaise conduite des chrétiens. Est-ce que nous avons perdu notre témoignage aujourd'hui à cause des querelles, à cause des divisions? Ça nous a rendu inutiles dans l'évangélisation. Et le monde autour de nous périsse. Et il y a des gens sans nombre dans ce monde, en Suisse et sur le continent et partout, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus et on est occupé avec des batailles et des guerres entre frères. Est-ce que cela ne fait pas pleurer? Ou vous ne pensez pas que c'est nécessaire d'appliquer ce verset 9 dans ce chapitre, mes chers amis? Sentez vos misères et menez deuil et pleurez. Au lieu d'écrire des lettres, des circulaires et des brochures, pleurez, jeûnez, criez au Seigneur. Prenez votre place au pied de la croix du calvaire. Des voluptés et des convoitises. Ah oui, un Abraham, qui est devenu ami de Dieu, dans le chapitre 12 de Genèse, il voulait se préserver sa vie. Eh bien, il a incité sa femme de quand même accepter un demi-mensonge. Tu dis que tu es ma sœur. Un demi-mensonge. C'est ainsi qu'on se permet des mensonges. Des petites, c'était quand même vrai. Elle était demi-sœur, mais c'est pour sauver la vie d'Abraham. À quand? Oh, il savait très bien que ce qui était en Jéricho était consacré à l'Éternel, mais il voyait justement cette petite chose. C'est cette personne qui est là. Prends-le. Cache-le dans ta tente. Il pense à lui-même, mais il ne pense pas à tout son peuple. peuple d'Israël a été empêché à cause d'un seul homme qui a péché. Vous pensez que nous pouvons faire le péché sans influencer les autres? Marie et Aaron, dans le livre des Nombres, chapitre 12, étaient jaloux. Est-ce que l'Éternel parle seulement par Moïse? Est-ce qu'il ne parle pas par nous non plus? Nous sommes aussi importants, nous sommes égaux à toi. On pense aujourd'hui un petit peu que l'Assemblée, c'est une sorte de démocratie. Nous avons tout notre droit, nous, toute notre valeur, n'est-ce pas? Mais l'Assemblée n'est pas une démocratie. Pour ainsi dire, l'Assemblée, c'est une théocratie. C'est le Seigneur qui règne. Il y a l'autorité. Il y a la soumission à l'autorité. Jacques et Jean qui demandent les meilleures places dans le royaume de Dieu. Ils pensent à eux-mêmes. Et je peux encore continuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Là, le verset 3 dit, vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas. Il faut peut-être découvrir de nouveau la puissance de la prière. Et ça ne commence pas dans la réunion de prière, ça commence chez moi. Si la réunion de prière, c'est une manifestation de la piété des frères et sœurs dans leur maison, c'est lamentable. La réunion de prière, c'est le thermomètre de la vie spirituelle de l'Assemblée. Est-ce que nous sommes tous là? Ou est-ce que c'est pas tellement important? Vivre par la prière. Parce que la prière, nous nous trouvons diminués devant le Seigneur. Nous ne sommes rien. Nous venons comme des pauvres. Nous venons avec nos besoins. Il faut revenir là. Pour pouvoir demander selon sa volonté. Et pas pour nous-mêmes. Pas pour nous justifier. Le Seigneur ne se joint jamais à nos combats, à nous, à nos intérêts. Mais si nous sommes pour ses intérêts et nous prions pour sa gloire, pour la bénédiction de nos frères et sœurs et l'accroissement spirituel de l'Assemblée, voilà une prière que le Seigneur peut exaucer. Mais ça, c'est pas une prière égoïste. Donc, la guerre de l'intérieur, c'est la source de toutes les guerres d'extérieur. Il y a aussi encore la guerre avec Dieu, dans les versets 4 et 5. La guerre avec Dieu? Est-ce qu'on peut faire la guerre avec Dieu? Oui? Comment est-ce qu'on peut faire la guerre avec Dieu? Mais vous savez, le Seigneur Jésus, il nous aime tellement qu'il ne peut pas supporter que moi j'aime une autre chose plus que lui. Pensez à cela, mes chers amis. Et mettez n'importe quoi comme un substitut pour le Seigneur Jésus, et vous manifestez un esprit d'inimité contre Dieu. Moi, j'aime la musique plus que le Seigneur Jésus. Mais j'aime le sport plus que le Seigneur Jésus. Mais j'aime une telle ou telle chose, une telle ou telle personne même, plus que le Seigneur Jésus. On fait la guerre. Celui qui aime, vous savez que le Seigneur avait dit dans l'Évangile, telle ou telle personne plus que moi n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ses parents ou ceux qu'on aime, mais ça veut dire que le Seigneur doit avoir toujours la première place dans nos cœurs. Et quand il n'a pas ça, cela, alors Jacques dit, c'est l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Mais ce qui est encore très frappant dans ce verset 4, vous voyez ça? Quiconque donc voudra être. Cette expression, je l'ai soulignée dans mon livre, dans mon Nouveau Testament. Voudra être, ça veut dire qu'on a considéré le cas et qu'on a fait un choix. On a choisi, j'ai voulu être. C'est très grave, ça. Ce n'est pas ici un accident, mais c'est une décision, c'est une attitude que j'ai prise vis-à-vis d'une chose, vis-à-vis d'une personne. C'est pour cela que le Seigneur, quand il écrit à cette église, en Éphèse, en Apocalypse, chapitre 2, j'ai une chose contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. Il ne dit pas que tu t'as perdu. Par exemple, si moi j'ai perdu mon portefeuille, ce sera un désastre, parce qu'il y a des papiers dedans importants. Mais si j'ai pris mon portefeuille, je le laisse à la table, et j'ai sorti de la maison, ben je sais ce que j'ai fait. J'ai laissé ce portefeuille-là. Ce n'était pas un accident. Alors, le Seigneur veut dire, vous avez à Éphèse substitué une autre chose pour moi. vous avez perdu cet premier amour. Et aussi, nous voyons donc que quelqu'un a choisi, il voudra être l'ami de ce monde. Il est constitué ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Ça veut dire quoi, cette phrase? L'Écriture parle en vain. À travers toute la parole de Dieu, nous voyons que notre Dieu nous aime tant que c'est exprimé dans notre mot jalousie. On pense que jalousie, c'est un mauvais sens, mais Dieu est jaloux du Seigneur Jésus, du fait de la gloire du Seigneur. Il veut que tout le monde respecte et honore son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, l'Esprit Saint est aussi jaloux pour nous, pour avoir tout notre cœur. Et la parole ne parle pas en vain quand elle souligne que d'aimer autre chose que le Seigneur Jésus, c'est la mondanité. Et que l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, désire-t-il avec envie, il désire profondément. Il désire profondément en nous que nous placions le Seigneur Jésus, que nous donnions au Seigneur Jésus toute notre affection. Voilà le vrai sens de ce verset. Est-ce que quelqu'un ici fait la guerre contre Dieu? Peut-être on ne le réalise pas, mais si on ne se soumet pas au Seigneur Jésus, si on n'accepte pas Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur, on est en fait en guerre avec Dieu. Parce que nous sommes dans le fond des rebelles. Nous ne voulons pas nous soumettre. Nous voulons nous maintenir à nos propres droits. Mais il faut venir en repentance au pied du Seigneur Jésus, reconnaître ses besoins, et accepter la seigneurie de Christ dans sa vie. Dans cette section 4 et 5, c'est terrible ce que nous lisons. Jacques dit adultère. Adultère, c'est donc quelqu'un qui, fornication, adultère. C'est, par exemple, imaginez-vous ici un couple, et la femme trouve un autre, et fait le péché avec. C'est l'adultère. Alors, dans le langage des symboles dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit que nous, les enfants de Dieu, l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et si donc nous sommes des amis de ce monde, dans ce sens-là, nous avons abandonné notre bien-aimé, notre mari, ou le Seigneur Jésus, dans un sens figuratif. Et c'est pour cela que Jacques les appelle adultères. Nous sommes donc donnés à Christ comme son épouse. Restez donc tout près de son cœur. C'est une position terrible que de vouloir, de choisir, de ne pas rester soumis aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une déclaration remarquable que l'Esprit de Dieu, il soupire après notre affection pour le Seigneur Jésus, pour que nous soyons remplis de Jésus-Christ et remplis de l'Esprit Saint. Pourquoi on choisit autre chose que le Seigneur Jésus? Parce que je suis satisfait avec moi-même. Donc, cette division 6 à 10, n'est-ce pas, l'infatuation avec soi-même. Je m'aime moi. J'aime me maintenir avant tout. L'apôtre Paul écrit en Romains 12 et le verset 3, le suivant. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ne pas avoir une haute pensée de soi-même. Il y a ici dans cette section ceux qui ont une haute pensée d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont jamais accepté la crucifixion de ce moi. Mais Dieu voit ce que nous sommes. On ne peut pas prétendre devant Dieu. On peut prétendre devant sa femme, devant son mari, devant ses frères, mais pas devant son Seigneur Jésus. Et alors, ici, donc, c'est la manifestation de croyants qui sont charnels. Il y a donc trois sortes d'hommes sur la terre. Il y a des hommes naturels, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas la vie de Dieu. Et puis, il y a des croyants qui sont nés de nouveau. Mais il y a deux sortes de croyants. Il y a des croyants charnels et il y a des croyants spirituels. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens en 1 Corinthiens 3 qui dit « Je ne pouvais pas parler à vous comme des hommes spirituels, mais des charnels parce que vous êtes encore des bébés en Christ. » Un croyant charnel, il maintient le moi. Il ne veut pas accepter la crucifixion avec Jésus-Christ. Un homme spirituel, c'est un croyant, c'est une sœur, c'est un frère dans lequel vit Christ, dans lequel Christ est manifesté. Mais c'est pour cela que Jacques dit des mots très directs. Il est dit dans le verset 8, vous êtes des pécheurs, vous agissez comme des pécheurs, vous n'agissez pas comme des hommes spirituels. Parce que un croyant charnel et un homme naturel, ils ont presque la même conduite. C'est très difficile de voir la différence entre quelqu'un qui n'est pas régénéré et un croyant charnel qui est mondain, qui vit comme tout le monde. Pécheurs, des gens de double cœur, verset 8. Et si nous avons réalisé que peut-être c'est notre cas, comment est-ce qu'il faut rectifier cette situation? Justement, c'est le verset 9 encore une fois. Peut-être il faut retourner à la maison et de sentir les misères qui sont dans mon cœur, cette guerre civile, parce que je ne veux pas me soumettre, de réaliser peut-être que j'ai eu tort vis-à-vis de mon frère. Peut-être j'ai tort d'avoir cette attitude vis-à-vis d'une sœur. Et je n'ai pas jugé cette pensée au début. Et cette pensée est maintenant très forte. Et c'est presque une attitude d'hostilité vis-à-vis de cette sœur, de ce frère. Et c'est à cause de cela que nous n'avons pas de communion dans l'Assemblée. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'harmonie dans l'Assemblée. Et c'est pour cela que nous ne nous trouvons pas que nous avons une même pensée. Et cela empêche le culte, cela empêche la communion fraternelle. Oh, nous savons tous très bien, mes chers frères et sœurs, le remède de notre situation. Est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment avoir cette joie parmi nous? Nous ne devons pas avoir une autre pensée de nous-mêmes, mais nous devons nous humilier. Soumettez-vous, verset 7. Encore, approchez-vous de Dieu. Verset 10, humiliez-vous. Voilà le chemin de retour. Voilà le chemin pour la victoire dans nos vies personnelles et dans nos vies d'assemblée. Je laverai mes mains dans l'innocence et je ferai le tour de ton autel, ô Éternel. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et en Exode 18, le verset 23, nous lisons, « Si Dieu te le commande, tu pourras. » J'ai souligné cela dans ma Bible. « Si Dieu te le commande, tu pourras. » Pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses pour continuer dans ces misères. « Si Dieu me commande, il me donne aussi de la force pour rectifier cette chose. » Il faut pas résister Dieu, mais il faut résister le diable, dit Jacques. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Pourquoi continuer à résister le Seigneur? Pourquoi encore résister et ne pas reconnaître la seigneurie de Christ sur sa vie? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, nos mains qui représentent nos actes et vos cœurs. Qui êtes double de cœur, nos intentions, nos pensées. Humiliez-vous devant le Seigneur Jésus et il vous élèvera. Individuellement, comme famille et comme assemblée. Ce n'est pas désespérer notre situation, cher. Ah oui, l'ennemi cherche à nous décourager, nous dit, c'est la fin. Non, le Seigneur est le Tout-Puissant. Mais il faut donc cesser à continuer de vivre ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Le verset 11 et 12 nous parle. Ne parlez donc pas l'un contre l'autre. Frères, Jacques retourne encore. Il a dit, vous êtes pécheurs, double de cœur, pour choquer, si vous voulez. Il faut que, parfois, que nous recevons un choc pour réaliser où est-ce que nous sommes. Pour choquer, il a écrit cela. Mais ce sont quand même ses frères. Ne parlez pas l'un contre l'autre. frère. Parce que celui qui parle contre son frère, qui juge son frère, parle contre la loi. Dans notre égoïsme, nous plaçons au-dessus de la loi et au-dessus de Dieu lui-même. Parce que si moi je juge mon frère, je prends le prérogative de Dieu. Mais c'est pour cela que Jacques pose cette question dans le verset 12. Toi, qui es-tu? Tu t'imagines que tu es quelqu'un, que tu oses et que tu peux juger ton frère, ta sœur? Mais tu ne connais pas tous les motifs dans le cœur de ce frère. Pourquoi il fait ça, il dit ça? Si nous avons tous les faits devant nous, la réalité dans la vie d'un tel ou tel frère, une telle sœur, on pourrait donc arriver à un juste jugement, mais nous n'avons pas ça. Donc, nous jugeons les autres sans avoir tous les faits. Et Dieu ne permet pas. C'est son droit à lui. On se place donc au-dessus de Dieu et au-dessus de la loi. C'est très grave, cela. Pourquoi donc il ne faut pas parler l'un contre l'autre? Parce que nous sommes frères. Et parce que nous n'osons pas nous placer au-dessus de la loi. Et que Dieu est le seul législateur. C'est le seul qui juge. L'apôtre Paul parle aussi en Romains 14, verset 4. « Qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui ?» Voilà un serviteur de Dieu qui a un certain service. Un frère, une sœur, certaines activités. Et peut-être, moi je suis pas tout à fait d'accord avec la méthode dans laquelle il le fait. Parce que ce n'est pas selon mes pensées. Mais il le fait pour le Seigneur. Il le fait devant le Seigneur. Et il se tient debout et il tombe devant son Seigneur. Romains 14, verset 4. Oh, est-ce que j'ose juger un tel serviteur? L'autre jour, j'ai dit, n'est-ce pas, c'est comme un boomerang. Si moi, je ne manifeste pas la miséricorde ou la justice vis-à-vis de mon frère ou ma sœur, plus tard, ça revient comme un boomerang sur ma propre tête. J'ai toujours peur de ces éléments qui sont si durs les uns contre les autres. Soyons durs avec nous-mêmes, mais pas durs avec les autres. Parce que si nous sommes durs avec les autres, le Seigneur se souvient. Et peut-être 10 ans plus tard, nous aurons le boomerang qui revient. Eh bien donc, pour finir, le verset 13 à 17. J'ai dit, c'est une parole pour des hommes d'affaires, mais c'est pas seulement pour les hommes d'affaires, mais il s'agit ici de ceux qui voyagent, qui font des affaires, etc. Mais qu'est-ce que nous avons donc ici comme enseignement pour nous? Il y a 2 choses. Cette section montre qu'il y a des personnes qui agissent premièrement dans l'indépendance et deuxièmement dans une présomption. Que le Seigneur nous garde de ces 2 choses, ces 2 péchés, d'agir indépendamment de Dieu. Encore une fois de plus, c'est la chair. La chair, donc, c'est cette ancienne manière de vivre, cette atmosphère dans laquelle j'ai trouvé la satisfaction de mes propres besoins en dehors de Dieu et indépendamment de Dieu. Parce que Dieu avait dit, moi, ton Dieu, suppliera à tous vos besoins. Puisque Dieu a pris la responsabilité de me donner tous mes besoins, une fois que j'agisse indépendamment de Dieu, je pêche. Et c'est la chair. Mais nos vies ne sont pas comme des compartiments sacrés. Par exemple, dans ma vie religieuse, j'agis d'une telle ou telle façon, mais dans le monde, dans mes commerces, une autre façon. Non. Un chrétien est conséquent, chrétien dans ses affaires aussi. Sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs, toujours. Pas simplement le dimanche matin, au culte, mais que le Seigneur ait cette place dans nos vies. Comme Joseph, par exemple, avec Potiphar. Et on lit en Genèse 39 que l'Éternel fut avec Joseph. Et son Seigneur vit que l'Éternel était avec lui. Vous voyez? Les autres, les gens incrédules, ils voient nos vies. Peut-être mon voisin ne lit pas la Bible, mais il lit ma vie. Il lit ta vie, comme chrétien. Il y a donc ici le journal des hommes, dans les versets 13 à 14. Nous voyons premièrement la complexité de la vie. Un homme, il va choisir son temps. Aujourd'hui ou demain, nous irons. Mais demain n'est pas à nous. Comme Jésus qui, dans cette histoire de cet homme riche, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme sera demandée. Oui, la vie est très complexe, mais nous n'avons pas le droit de diriger nos propres vies, de décider, de faire des plans. Mais souvent, nous faisons des plans et puis finalement, eh bien, Seigneur, sois avec moi. Non, c'est pas comme ça. Et l'homme, nous voyons de ce verset, met une limite à son séjour, nous y passerons une année. C'est lui qui décide, une année. Mais si demain tu tombes malade, tu as un infarctus, un homme fait ses plans, nous trafiquerons et nous gagnerons. Il peut tomber malade, il peut avoir un accident de voiture. Et un homme compte ses profits, nous gagnerons. Vous voyez toute cette vanité d'agir en dehors de la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai que ce n'est pas mauvais que l'enfant de Dieu a des plans, mais il commence à se mettre à genoux. Et puis, il demande le Seigneur de le diriger, telle ou telle décision. Et quand il est tranquille et paix dans son cœur, il peut faire ses plans, mais il se soumet toujours au Seigneur qui peut encore changer ses plans. Nous avons aussi deuxièmement l'incertitude de la vie dans le verset 14. Vous ne savez pas ce qui arrivera, dit Jacques. Ne te glorifie pas du jour de lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Proverbe 27, verset 1er. Troisièmement, il y a aussi les brièvetés de la vie. Verset 14. Qu'est-ce que votre vie, en vapeur, paraisse pour un peu de temps et disparaissant? Et finalement, il y a encore la fragilité de la vie. Vous vous glorifiez dans vos ventries, dit Jacques. Il faut mieux dire si le Seigneur le veut. Voilà donc ici la volonté de Dieu. Est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu pour notre vie? Est-ce que nous demandons sa volonté? Peut-être vous posez la question, mes frères, comment est-ce qu'on peut savoir la volonté de Dieu? Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, de présenter vos corps, sacrifice vivant, sainte, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement avec vous. Sachiez connaître quelle est la volonté de Dieu parfaite. Donc, condition pour connaître la volonté de Dieu, il faut se donner soi-même, en abandon total, son esprit, son âme, son corps. C'est le devoir de l'homme de dire si le Seigneur le veut. À l'égard de sa volonté, exposons-nous tout devant le Seigneur Jésus. Par déférence de la volonté de Dieu, nous devons l'accepter, comme le Seigneur lui-même l'avait fait. Pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Le jour de ses souffrances dans le jardin de Gethsémané. Et d'avoir une préférence pour la volonté de Dieu, parce que nous savons que dans le centre de sa volonté, c'est le bonheur et c'est la félicité, c'est le ciel sur la terre, dans la volonté du Seigneur. Donc, pour celui qui sait faire le bien, verset 17, et qui ne le fait pas, pour lui c'est péché. Quand nous avons considéré ce chapitre, et nous avons été instruits, et nous avons reconnu la volonté de Dieu pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos assemblées, de ne pas la mettre en pratique, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un péché. Que le Seigneur nous garde, chers amis. Ce n'est pas un devoir que nous devons accepter, mais c'est pour nous un délice que de faire la volonté du Seigneur Jésus.